Moi, je trouve que le mot est bien choisi. Forêt en vie. Pour deux raisons. Parce que effectivement, c'est la vie qu'on veut sauvegarder sous toutes ses formes. La vie de la forêt, mais la vie des êtres humains qui y travaillent. La vie intérieure aussi. Que ça produise de l'espoir. Que ça produise de l'envie. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce mot-là aussi. Parce que envie, c'est donner envie. En fait, donner envie de s'intéresser à la forêt et donner envie de s'intéresser au métier de la forêt. Au métier de la forêt. C'est pas en faisant des forêts usines qu'on va donner envie aux jeunes d'y aller. Ça marche pas, en fait, ça marche pas. C'est en donnant des métiers où il y a du sens, où il y a de la sensibilité, où il y a de la rencontre, où il y a de l'humain, où on a de la joie, quoi.
Forêt en vie, c'est un groupe de gens qui sont sensibles à la forêt, qui s'inquiétaient en fait pour la forêt, parce qu'à l'heure actuelle, avec la pression industrielle, on craint que si on ne réagit pas, je ne sais pas moi, dans 30 ans, 40 ans, on n'aura plus de vieilles forêts en Europe. Enfin, on va parler de la France là pour l'instant, parce qu'il y a vraiment une politique, enfin il y a un gros besoin en bois les derniers temps qui s'accentue, une grosse pression, et on a peur que toutes nos forêts diversifiées se transforment en plantations. Donc on a créé un outil, un fonds de dotation qui s'appelle donc Forêt en Vie, qui porte bien son nom. C'est une structure qui peut rassembler des fonds ou des legs dédiés à la forêt, à l'achat de forêt. Et c'est une structure qui sera propriétaire. Et puis, le deuxième volet, c'est de pouvoir confier ces forêts à des personnes, donc à des groupes de personnes. On a préféré poser ça en termes d'engagement collectif, parce qu'on considère que la forêt, finalement, eh ben, tout le monde peut y accéder, et ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc c'était de sortir de cette propriété privée pour faire en sorte que les gens puissent y accéder collectivement à la forêt et tous les savoir-faire qui s'y sont développés.
Alors, Forêt en Vie, un vaste et beau projet au profit des forêts de France métropolitaine pour permettre par le don et le leg, et c'est ça l'idée du fonds de dotation, et pour ça qu'on a créé une autre structure que l'association Réseau pour les alternatives forestières, c'est de montrer de belles alternatives en forêt pour pouvoir avoir un outil efficace de protection des forêts qui sont mises en danger par la financiarisation, l'industrialisation des forêts, l'extension des villes, enfin plein de dangers qui aujourd'hui planent et sont déjà existants sur les forêts.
Je pense qu'un projet comme Forêt en Vie est très important parce qu'elle va servir de montrer d'exemple, et on est dans un territoire où les propriétaires, ils penseront pas qu'on peut faire autrement tant qu'on leur aura pas montré que sur leur même territoire, dans les mêmes types de peuplements, en fait, il y avait aussi une autre possibilité de gestion. La coupe rase n'est pas une fatalité. Donc tant qu'on l'aura pas prouvé par A plus B avec les mêmes types de peuplements, ben, on continuera à avancer à tout petit pas, quoi.
Pour des forêts en vie, la 29e émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zinzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Gaëtan Debus est expert et gestionnaire forestier dans l'Aude. C'est Gaëtan qui a pris l'initiative en automne 2008 de convoquer la réunion à Sainte-Afrique dans l'Aveyron, où la décision a été prise de créer le RAF, le réseau pour les alternatives forestières. Au sein du réseau, la question du foncier forestier a toujours été perçue comme essentielle. Gaëtan Debus.
Ça a été un des moteurs pour moi de la naissance du réseau pour les alternatives forestières, la question foncière, parce que ça m'a assez rapidement surpris quand j'ai démarré mon travail de forestier, de voir la différence qu'il existe entre le monde agricole et forestier dans la relation entre les travailleurs et les propriétaires. C'est-à-dire que dans le monde agricole, on est parfois propriétaire de sa terre, et quand on n'est pas propriétaire, en général, on a un bail qui nous permet de travailler pendant longtemps, en général toute sa carrière, voire les enfants reprennent. Et donc on a une sécurité, Alors qu'en forêt, même dans les forêts communales, domaniales, moi j'ai commencé ma carrière comme ça, sur les forêts publiques, c'était un modèle qui me plaisait, il n'y a pas plus de sécurité qu'ailleurs. La sécurité en termes de forêt, la continuité de l'état de la forêt, de sa santé, de sa beauté, elle est soi-disant aujourd'hui garantie par des lois, etc., par le régime forestier en France, donc l'ONF, etc. Bon, la réalité, je vais être méchant, mais c'est un peu une vaste blague, quoi. Il n'y a pas beaucoup de garanties de sécurité en France à ce sujet-là. Donc la sécurité de l'état de la forêt, hein, du respect de la nature en forêt, elle repose surtout sur l'éthique, et sur l'investissement, la qualité, la motivation des gens qui travaillent dans ces forêts-là, à tous les niveaux. Quand on a envie de faire un travail de qualité en respectant la forêt, eh bien, on est peu motivé si on sait qu'on va passer d'une forêt à l'autre, qu'on n'a aucune stabilité. Et ça, quand je parle du bail dans le monde agricole, le problème dans la forêt, c'est qu'on n'a pas cette garantie de long terme. Parce que travailler 30 ou 40 ans sur une forêt, il faut bien comprendre que même ça, même 30-40 ans, c'est très 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 petit quoi, par rapport à la forêt. Très 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 petit, c'est le minimum. C'est le minimum. Et donc, si je travaille dans une forêt et que tous les jours je change de forêt tous les ans et puis je n'ai pas de lien, eh bien, si je m'investis un jour, une année, deux ans, cinq ans dans une forêt, que j'y mets tout mon cœur pour bien travailler, pour respecter la forêt, et puis que du jour au lendemain, on me vire, ou que je passe d'un chantier à l'autre, ben, ça me démotive. Donc ça, c'est quand même un problème de sécurité dans le lien que le travailleur forestier peut avoir avec la forêt dans laquelle il travaille. Et pour moi, ça érode, finalement, ça érode la qualité du travail, ça fait que les forêts ne sont pas bien gérées, parce que les gens n'y sont plus attachés. Donc aujourd'hui, qu'on dise à un forestier, ben en fait, du jour au lendemain, bon, tu vas changer de secteur, ou en fait, ta fonction, elle est juste faire de la commercialisation du bois, mais les travaux, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, les contrats, c'est quelqu'un d'autre qui s'en occupe, la chasse, c'est quelqu'un d'autre. En fait, c'est de la division de l'individu, on coupe l'individu en mille morceaux, et on coupe aussi son lien qu'il a avec la forêt. On coupe son lien qu'il a avec la forêt, donc il est démotivé, voire il est déprimé. Ça le déprime, en fait, de sentir qu'il n'a plus droit à ce lien global de la personne humaine à la forêt.
Donc, au début du RAF, pour toi, ça voulait dire quoi? Que le foncier forestier, c'est important. Est-ce que déjà, il y avait des idées? Qu'est-ce qu'il fallait imaginer? Ou, je sais, il y avait des colloques, enfin des séminaires sur les questions du foncier forestier au sein du RAF.
Oui. Mais en fait, il y avait la question du travail. Hein, du lien entre le travail et la forêt, mais il y avait aussi la question du lien entre propriété et forêt. Parce que derrière la forêt, il y a beaucoup de personnes, des usagers, des propriétaires, mais il y a un gros problème aujourd'hui en France, comme dans d'autres pays, hein, mais en France c'est quand même assez fort, c'est que comme depuis 100-150 ans, on va dire, les propriétaires sont de plus en plus urbains, et qu'au fur et à mesure des divisions, les propriétaires finissent par avoir un tout petit lambeau de forêt, et puis ils savent même plus où elle est, donc il n'y a plus d'attachement, ils sont complètement détachés, et un jour ou l'autre on leur propose un chèque, et puis ils acceptent, parce que la forêt c'est juste un numéro sur un plan cadastral, donc ils ne savent pas ce qu'elle devient. Pendant une génération au moins, voire deux, il y a eu cette perte d'attachement du propriétaire à la forêt. Donc ça veut dire que la propriété privée aujourd'hui, elle est laissée en pâture à tous les appétits d'investisseurs qui peuvent être vertueux parfois, hein, mais qui sont quand même, disons-le, en majorité, qui ont des visions un peu mercantiles, un peu de placement, voire de rentabilité, voire d'exploitation rapide, de productivisme, ça, voilà. Donc c'est laissé en pâture à un monde de marchandisé. Et évidemment, ça ne favorise pas la qualité du travail, quoi. Donc dans les premiers ateliers qu'on a fait au RAF, c'était la question de la propriété. Qui est propriétaire de la forêt française aujourd'hui? Est-ce qu'on peut changer? Quels sont les leviers, les coins qu'on va mettre pour essayer de tout petit bout par petit bout changer la donne, la distribution de la propriété en France? Tout petit bout, hein, ça restera symbolique, mais on veut y arriver. Donc ce premier mode d'action et l'autre qui est comment on peut créer des relations durables entre propriété et usage.
Il y a beaucoup de propriétaires forestiers en France, mais ce n'est pas très également distribué, cette propriété.
En fait, il y a 3,5 millions de propriétaires privés en France, mais il faut savoir que la forêt privée est très très morcelée. puisqu'il y a énormément de propriétaires, mais elle est aussi très concentrée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a très peu de gros propriétaires. Et ces gros propriétaires représentent l'essentiel de la surface. Donc on va parler de 20% des propriétaires qui possèdent 80%, 10%, 50%, pour donner une idée. Donc c'est beaucoup plus concentré que la propriété agricole, en fait. Beaucoup plus concentré, parce que un des éléments essentiels de cette histoire, c'est que justement, quand vous n'avez pas de bail sur une forêt, eh bien, la propriété est libre à la vente. Donc ça veut dire qu'une propriété forestière se vend beaucoup plus facilement, elle passe de main en main beaucoup plus facilement qu'une propriété agricole, puisqu'il n'y a pas de bail dessus. Donc le bien n'est pas occupé, donc il est valorisé en termes économiques. C'est plus rémunérateur pour le vendeur de vendre sa forêt, puisqu'il n'est pas occupé. À part, il y a des occupations de chasse, mais des occupations d'exploitation, non. Et parce que je peux prendre la décision très facilement, je n'ai pas un locataire, on va dire, que je vends avec, quoi. Alors, ce n'est pas énorme, hein. Il faut savoir qu'il n'y a que 2% de la forêt française qui change de main chaque année, dont 1% par vente. Donc, ça veut dire que les propriétaires sont quand même relativement attachés à leur propriété, mais ça veut dire aussi et surtout qu'il y a énormément de toutes petites propriétés qui ne bougent pas.
Là, on parle de genre 2 millions, 2,5 millions, je ne sais pas combien de propriétaires qui ont probablement, je ne sais pas moi, moins de 4 hectares
oui,
ou de genre 1 hectare. Ou...
Oui, je n'ai pas le chiffre exact, hein, je suis désolé, je n'ai pas du tout préparé l'entretien, je n'ai pas le chiffre exact, mais ceux qui possèdent plus que 100 hectares, c'est vraiment une minorité, je ne sais plus, c'est 100 000 propriétaires, enfin, ce n'est pas grand-chose, quoi, vraiment. Donc, dans les 2% qui changent de main, il y a 1% par héritage, 1% par vente. Hein. Et ce 1% qui change de main par vente, c'est 1% de la surface, c'est surtout des moyennes et grosses propriétés. Donc c'est un marché qui est surtout capté par des propriétaires investisseurs. Et dans les investisseurs, il y a une partie, mais qui est de plus en plus minoritaire, de familles, c'est-à-dire de familles qui ont bien vécu, avec des métiers qui ont bien gagné leur vie. C'est-à-dire, ça peut être des avocats, des chirurgiens, des industriels, des gens qui ont bien gagné leur vie, qui ont de l'épargne, qui veulent la placer pour leurs enfants, etc. Et ça, c'est des gens qui veulent avoir une relation directe à la forêt. Si vous voulez, ils achètent eux-mêmes la forêt, donc il y a un intérêt, puisqu'ils vont la gérer au moins administrativement, ils vont quand même aller voir la forêt, il y a un lien. Voilà, ça, c'est des gens pour qui je travaille personnellement, puisque moi, je suis gestionnaire de forêt. Hein. Mais il y a aussi des investisseurs qui sont des personnes morales et qui créent des portefeuilles d'investissement. Ça peut être des groupements forestiers d'investissement. C'est un outil qui est paru il y a 2 ans, là. Mais ça peut être aussi des sociétés d'épargne forestière ou des groupements forestiers classiques. Donc la Caisse des dépôts et consignations, par exemple, est un de ces acteurs-là qui crée des portefeuilles, mais ça peut être AXA, ça peut être Groupama, la Lyonnaise. C'est plein de grosses sociétés qui ont des capitaux assez importants et qui drainent de l'épargne et qui proposent à leurs clients de placer toute ou partie de leur épargne dans les forêts, mais c'est même parfois pas du tout visible. C'est-à-dire qu'il y a un fonds de placement qui va être rémunéré à 3% dans lequel il y a un peu de forêt.
Et pourquoi la forêt est considérée à ce point un bon investissement ?
Alors, la forêt a un double avantage, si vous voulez. D'abord, c'est quelque chose d'assez stable. Bon, bien sûr, le changement climatique bouleverse un petit peu cette donne-là, les feux, etc. Mais il y a un peu des assurances quand même pour ça. C'est quelque chose d'assez stable parce qu'on sait que le foncier forestier ne baisse pas, voire il est plutôt à la hausse. Donc, quand on regarde les 10-15 dernières années, le prix à l'hectare des forêts est plutôt en hausse. Donc c'est une valeur sûre, voilà. Ensuite, c'est de l'immobilier comme une maison, on sait que c'est plus solide que d'avoir un truc en bourse qui va rapporter plus mais qui est plus fragile. Et puis, il a l'énorme avantage d'avoir une très très bonne image auprès du public. C'est comme quand vous mettez du bois dans votre maison, tout le monde vous dit « Oh, c'est génial, c'est écolo le bois ». Eh bien, vous achetez une forêt, même si c'est une plantation de Douglas en randonnion, les gens vont dire « Ah ouais, ça c'est écolo ». Acheter de la forêt, c'est vert. Par définition, c'est vert.
Le but de Forêt en Vie est d'acquérir petit à petit des forêts un peu partout en France. Ces forêts sont mises à la disposition de collectifs porteurs de projets par le biais d'un bail forestier innovateur créé par le fonds de dotation. Écoutons Vincent Magnier, ingénieur forestier et membre du conseil d'administration de Forêt en Vie.
puisque là, dans le principe, Forêt en Vie obtient par dons et legs des forêts, soit achète des forêts grâce à des dons et des legs, et donc devient propriétaire de facto de ces forêts, mais ne souhaite pas et n'aura pas la capacité de s'en occuper ou de les bichonner ou de vérifier que l'état des forêts reste cohérent avec les objectifs de Forêt en Vie. Et l'idée, c'est bien de transmettre à des groupes, à des collectifs, des usagers locaux qui ont envie de faire des choses dans ces forêts et d'en prendre soin et de s'intéresser à ce qui se passe dans cette forêt, donc de signer un bail avec Forêt en Vie, un bail qui serait plutôt long, hein. La première phase pourrait être au moins 12 ans, avec probablement un deuxième bail encore plus long de 99 ans, c'est ça qu'on envisage aujourd'hui, et donc ça permettrait que ce groupe s'investisse et appréhende petit à petit, évidemment avec l'aide des gens de Forêt en Vie, appréhende la question forestière sur leur territoire, crée des dynamiques avec des utilisateurs du bois en aval s'ils veulent prélever du bois, et aussi voit comment aider l'écosystème à passer différentes étapes qui, on sait, vont être difficiles dans les décennies, les années à venir, sous l'effet du changement climatique, et donc envisager les choses dans la douceur, sans se presser, en observant vraiment l'écosystème tel qu'il évolue et en se donnant vraiment une capacité le plus possible d'adaptation du milieu forestier en maximisant tout son potentiel vivant, d'une part, et puis de l'autre, en optimisant les besoins, en se freinant sur les besoins et en prenant le juste nécessaire pour l'humain et pour ses activités sur ces massifs forestiers.
En fait, j'ai l'impression que c'est quelque chose aussi qui peut permettre à une population, en fait la société civile, si on l'appelle comme ça, d'avoir une autre relation avec les forêts. Je veux dire, tu as le lien à faire un peu ça avec les questions agriculture, de l'installer des paysans. Là, on peut agir concrètement, on permet quelque chose, mais on peut rester en relation avec ces porteurs de projets ou ces groupes qui vont s'occuper de ces forêts.
Oui, et ça, c'est important aussi, parce que comme le parallèle avec le monde agricole est flagrant, c'est qu'il y a eu un éloignement de la société civile des questions agricoles pendant des décennies, avec un fossé qui s'est créé entre ceux qui utilisaient la terre et pour nourrir les gens et ceux qui consommaient les denrées alimentaires. Et en forêt, on a évidemment observé le même genre de phénomène, avec en plus quelque chose d'encore plus compliqué, puisque les gens ne mangent pas de bois, donc du coup, une relation peut-être encore plus éloigné des préoccupations des forestiers, et en même temps une relation quand même encore forte, même pour les gens qui n'habitent pas en forêt, avec toute l'émotion et la passion liée à l'écosystème forestier que tout un chacun peut ressentir quand il rentre dans une belle forêt. Il va tout de suite être touché par ça et par le spectacle de la nature, la puissance de la nature et des arbres, les myriades d'espèces qui circulent et qui interagissent dans cette forêt. Et donc là, il y a vraiment aussi un fort potentiel de rapprocher la société pour une meilleure compréhension de tout ce qui se passe en forêt, de pourquoi c'est important de continuer d'avoir un usage du bois et de ne pas tout mettre sous cloche, ou de, au contraire, pas laisser faire une industrialisation qui continue à dérouler un système qui est vraiment, vraiment néfaste à de multiples niveaux. Et là, on a une formidable capacité. Je suis persuadé qu'on va avoir des démonstrateurs très forts, très puissants pour la société, pour se réemparer du sujet, comprendre enfin les enjeux de la sylviculture, les enjeux aussi de la préservation, et en lien très fort aussi avec toute cette question du changement climatique qui aujourd'hui est devant nous et qui interpelle très fortement les forestiers et les professionnels de la forêt, mais aussi commence à aussi fortement interpeller la société civile. Et donc, les forêts de Forêt en Vie pourraient être un lieu de retrouvailles et de débats et d'échanges concrets entre le monde professionnel et la société civile, à mon sens.
Emmanuelle Rouff est également membre du conseil d'administration de Forêt en Vie. Elle fait partie du collectif de paysans forestiers de Longomaille à Trénas en Ardèche.
Alors après, dans l'idée, ça peut devenir incroyable, parce que ça peut être des lieux vraiment de formation, de transmission, de création. qui en plus peuvent se mettre en lien dans le temps s'il y a plusieurs forêts, et puis parce que les forêts sont diversifiées en France, hein, entre le nord et le sud, on peut aussi axer ses savoir-faire par rapport à la forêt existante. Ça, c'est très important. On ne fera pas peut-être la même charpente dans la montagne où il y a des très gros bois. Et puis ici, dans le sud de la France, où les bois sont plus petits, il y a peut-être des techniques à adapter. Enfin, il y a un champ de possibles qui est énorme. Voilà, pour moi, forêt en vie, c'est ça, c'est de redonner la possibilité, enfin, de donner la possibilité à la forêt de vieillir et de rester vivante, et aux gens qui sont sur les territoires de pouvoir s'y reconnecter et redevenir créatifs en lien avec cette forêt.
En fait, vous, à Trélens, vous avez une approche assez collective. Hein, vous travaillez ensemble en forêt, donc peut-être vous avez aussi une expérience qui peut être utile ou intéressante pour des personnes qui vont peut-être travailler dans des forêts de forêt en vie.
Enfin, la forêt avec laquelle on travaille à l'heure actuelle, elle a été achetée de cette manière-là. En fait, on a lancé un appel à dons parce qu'on sentait la pression autour de nous, des rabatteurs de bois, comme on dit, et le massif qui est juste devant nos maisons, là, qu'on voit tous les matins, on avait peur pour lui, quoi. Donc, on a lancé un appel à dons et les gens ont répondu, ça a été incroyable. C'était un élan de solidarité énorme. Et ce qui nous a permis d'acquérir collectivement, hein, parce que c'est une fondation donc, qui en est propriétaire à l'heure actuelle, et nous, on est locataires, donc qui nous a permis de pouvoir y accéder. Et en fait, on s'est dit, on veut que cette forêt, ça soit une forêt école, que ça soit un lieu d'échange, et c'est ce qu'on a mis en place. Donc on va en forêt, et des fois on est 20, on est 30, on y fait du débardage à cheval, ce qui est une pratique qui quand même a tendance à disparaître. Et puis quand on est en forêt, donc on réfléchit ensemble, on se responsabilise ensemble comment aborder cette forêt, comment couper les arbres. Et puis en fait, on s'est aperçu que les gens, ils ont envie de savoir ce qu'on va faire avec ce bois, ils ont envie d'apprendre à scier, ils ont envie d'apprendre la charpente, la menuiserie. Et voilà, tous ces savoir-faire, en fait, réémergent à partir du moment où on rentre collectivement dans la forêt. Parce qu'il y a des centres d'intérêt très différents. Et ça, tout ça, ça se télescope. Et puis, ça provoque une émulsion qui, à la fin, fait que ça devient carrément passionnant. Il y a des gens qui sont plus intéressés aussi par la faune, par la flore, donc qui vont plus prêter attention à ça. D'autres, ben oui, c'est des lagages. Alors, hop, ça monte dans les arbres. Et puis, là, on pourrait faire un peu plus de lumière. Et forêt en vie, pour moi, c'est ça. C'est cette rencontre des gens qui sont là avec leur créativité, mais aussi leur questionnement, même des fois un peu leurs angoisses, parce qu'il y a la sensibilité que la forêt, c'est quelque chose de vivant et qu'il faut y aller avec respect et humilité. Voilà, on expérimente, on essaye, on se remet en lien, mais on a nos besoins. Voilà, il faut confronter ces deux choses-là. Et puis la forêt, elle est habitée. Il y a aussi des animaux, il y a des oiseaux, et tout ça, il faut faire avec. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller chercher du bois parce qu'on en a besoin, mais c'est de reprendre conscience du pourquoi du besoin, en fait. Et donc, nous, on sait, enfin, on a pas mal de contacts avec des charpentiers, des menuisiers, qui ont pris conscience qu'ils avaient perdu, finalement, ce lien avec la matière, et qui ont vraiment envie de retourner en forêt pour avoir cette conscience que lorsqu'ils prennent du bois, c'est dans un milieu vivant et que cette fonction, il faut la conscientiser et l'honorer. Voilà, donc l'idée de Forêt en vie, c'est de pouvoir se mettre en lien avec tous ces gens-là qui ont cette conscience-là et qui ont envie de renouer leur lien à la forêt. Donc l'idée, ce serait d'avoir des groupes, nous on appelle ça des collectifs preneurs, mais ça, c'est des associations en fait. Mais après, ça peut avoir plein de formes, des cercles de réflexion et d'action vers la forêt pour le faire ensemble.
Il y a certaines forêts avec beaucoup plus d'animaux et d'oiseaux que d'autres. Je veux dire, les plantations, etc., ou les forêts, c'est quand même aussi favoriser une certaine forme de forêt qui permet toute cette diversité de vie, non ?
Moi, je fais partie de ceux, parce que tout le monde ne le voit pas comme ça, je fais partie de ceux qui pensent qu'une plantation, ce n'est pas une forêt, c'est une plantation. Voilà, ça n'enlève rien au fait qu'il y a des arbres qui sont là, mais c'est monospécifique en âge et en essence. Et l'avenir de ces plantations, c'est d'être coupé à ras, normalement. Donc, pour moi, ce n'est pas une forêt. Il n'empêche que nous, on est plutôt dans la pratique d'essayer de transformer ces plantations en forêt. Et on a bien conscience que ce qu'on est en train de démarrer, ça veut dire de faire des éclaircies, chose qu'on a déjà faite maintenant. Mais maintenant, on observe, on voit s'il y a un peu de régénération naturelle qui arrive. Mais parce que pour nous, c'est très très important de ne pas remettre encore une fois le sol à nu. Donc ce qu'on a commencé à initier, c'est des toutes petites placettes. Hein, mais c'est dans du genre, on laisse la lumière arriver sur une surface de 10 mètres sur 5 de large pour voir si cette lumière-là ne va pas favoriser autre chose.
Je suis Emeline Faure, je suis gestionnaire forestière indépendante en Limousin. Donc je suis gestionnaire de forêt pour le compte de ses propriétaires, des propriétaires privés. Au niveau de la Haute-Vienne et de la Creuse, on s'est réunis à 7 gestionnaires indépendants autour donc notre métier d'être gestionnaire indépendant et dans le but de faire la promotion d'une sylviculture douce en forêt. Alors en fait, du coup, nous, on travaille pour le compte de propriétaires, donc on n'est pas propriétaire des forêts dans lesquelles on travaille. Donc on soumet des propositions de mode de gestion. Ensuite, on travaille dans un contexte de filière, des conditions économiques qui sont telles qu'elles sont localement et parfois on subit. Et du coup, le projet Forêt en Vie, pour nous, il est assez important parce que ça va amplifier déjà, je pense, la sylviculture qu'on essaie de faire dans les forêts où on est amené à travailler. Et en plus, d'aller plus loin dans l'expérimentation et pour montrer ce qui est possible, ce qui est faisable. Et peut-être que ce seront des idées qui émergeront, qu'on sera du coup après en capacité d'appliquer dans une filière plus conventionnelle.
J'ai l'impression que parfois, un problème pour des gens comme vous, gérer des forêts comme ça, mais ce n'est pas des forêts à vous, c'est que le propriétaire peut tout d'un coup changer, ou peut-être il décède, et puis il y a un héritier, et puis il peut avoir tout à fait une autre approche. Vous avez peu de maîtrise ou sécurité à long terme, la possibilité de vraiment bâtir quand même une approche à la forêt sur le long terme, non ?
Alors. On a quand même la chance par rapport à la vision de la forêt qu'on propose, qu'on attire plutôt des gens qui ont une vision à long terme. Donc peut-être que nos clients sont peut-être pas représentatifs de l'ensemble des propriétaires, mais on a des clients qui sont plutôt attachés au patrimoine, à la transmission, au maintien d'une forêt dans laquelle ils ont envie de pouvoir venir et de se promener dans une forêt avec des arbres debout. Donc on n'est jamais à l'abri de perdre un client, qu'il y ait une succession, une vente, effectivement. Mais je trouve que bon, on arrive déjà à mettre des relations quand même un petit peu durables avec nos clients. Mais effectivement, on n'est ni propriétaire des forêts, ni propriétaire de nos clients. Ils sont quand même libres à la fin de faire ce qu'ils veulent, quoi.
Est-ce que chez vous, vous voyez souvent des forêts qui peut-être sont en vente ou qui sont menacées et que sur lesquelles... Vous pensez que ce serait vraiment important de pouvoir agir pour essayer de les mettre à l'abri justement d'une mauvaise gestion forestière ou de la spéculation?
En fait, moi, ce qui me choque beaucoup dans la région, c'est qu'on voit souvent plutôt des gens qui veulent se séparer de leur patrimoine et qui commencent par faire une coupe rase pour apprendre à vendre le foncier. Et ça, je pense que c'est beaucoup de petites parcelles feuillues où il y avait du coup une diversité, une biodiversité parce qu'il y avait peu de gestion, mais du coup des choses intéressantes, finissent en coupe rase par facilité. Et ça, c'est dommage qu'on ne soit pas en capacité de dire de faire comprendre à ses propriétaires vendeurs non, mais il y a d'autres solutions que de commencer par raser sa forêt pour pouvoir la vendre. Du coup, c'est un outil en plus qu'il faut faire connaître auprès des propriétaires qu'il y a plusieurs solutions qui s'offrent à eux et voilà, pas forcément la solution qui peut paraître de prime abord la plus simple de tout raser, mais qu'il y a des gens qui sont prêts à s'investir dans leur forêt et de faire perdurer ce que leurs ancêtres ont commencé aussi, quoi.
Est-ce que tu sens que dans la région, j'ai l'impression de loin, mais que la forêt prend pas mal d'importance pour pas mal d'habitants, enfin c'est quelque chose de présent, est-ce que tu sens qu'il y a... une sorte de courant de personnes ou de la population qui voudrait pouvoir être plus actif pour défendre, de protéger les forêts.
Oui, il y a beaucoup d'initiatives qui sont en train d'émerger en Limousin autour de la question forestière, avec des groupes déjà là plus ou moins formés, des actions qui sont déjà vraiment très établies. Si on fait la cartographie sur le territoire, je pense qu'il n'y a pas un canton où en ce moment il n'y a pas une idée émergente sur les questions forestières. Ce qui paraît un petit peu logique, on est dans un territoire très boisé, Voilà, en Corrèze, c'est 40% de la superficie du département qui est boisé. C'est un peu moins en Haute-Vienne et en Creuse, mais c'est le paysage quotidien des gens. Et du coup, il y a une prise de conscience du milieu dans lequel on vit et donc une envie d'interagir dessus aussi.
Mais quand même aussi, je pense, une méthode de gestion très dominante.
Alors, c'est parce que du coup, la gestion, elle se voit maintenant, parce que, par exemple, sur la montagne Limousine, l'ensemble des plantations, elles ont été globalement plantées à la même période, et que la gestion conventionnelle en futaie régulière de ces plantations conduit à une coupe rase, et du coup, toutes les coupes rases sont en train d'arriver en même temps. Donc, c'est vrai que ça fait un effet très visuel et qui peut amener à des mobilisations, effectivement, de la part des populations. Moi, j'espère vraiment que Forêt en Vie, ça prendra et que ce sera des lieux de, aussi de, pour nous, de soutien, d'expérimentation, et de, pour montrer l'exemple, quitte à se tromper, et de retenter des choses, quoi.
On a le droit à l'erreur, parce qu'on a un peu plus de temps devant nous.
Alors, c'est l'avantage de la forêt, c'est qu'elle est quand même très généreuse avec les hommes, et souvent, elle est gentille avec nous, et avec un peu de temps, elle répare nos erreurs.
Le fonds de dotation, créé, je vous rappelle, par le réseau pour les alternatives forestières, a décidé qu'environ un quart de la surface forestière dont il est propriétaire sera laissée en libre évolution. Vincent Magnier.
Donner vraiment une dimension plus forte à la libre évolution, concept quand même qui est finalement assez récent et qui demande à être mieux compris par la société. Et qui a un enjeu fort aujourd'hui, très fort, pour répondre à plein d'enjeux, tant celui de la préservation de la biodiversité, terrestre à l'occurrence là, mais aussi aux enjeux d'essayer d'infléchir les problématiques du changement climatique qui sont terrifiantes, pour lesquelles les forêts, en même temps qu'en parallèle la question des océans, sont des données fondamentales pour répondre à ces enjeux. C'est d'essayer de se dire que, enfin, dans certains endroits, certaines parcelles forestières, on n'ira plus y mettre notre nez à un pas de temps long ou court, mais que la forêt va pouvoir évoluer à son rythme, avec ses dynamiques propres, avec donc un enrichissement perpétuel lié au cycle du carbone, lié donc au recyclage du carbone, lié à l'expansion des espèces qui, au fur et à mesure du développement de la forêt, trouvent cette ambiance forestière si nécessaire à leur bon développement et donc croissent en permanence en quantité, en biomasse et aussi en nombre d'espèces et en interaction. Et ça, seule la libre évolution le permet, puisque dès que l'homme commence à intervenir, que ce soit pour couper du bois, pour cueillir des champignons, pour ramasser des plantes, pour faire même se promener en forêt ou avoir une activité de nature en forêt, tout de suite ça a une incidence, une fois sur les sols, une autre fois sur le potentiel de croissance, ou sur le calme des espèces et leur capacité à se reproduire et à vivre leur vie. On le voit avec le confinement là, lié au virus, que dans plein d'écosystèmes, et donc aussi les écosystèmes forestiers, la nature a retrouvé une puissance qu'on avait oubliée depuis longtemps. Et donc, la libre évolution, c'est censé permettre ça. Donc il ne s'agit pas de faire ça partout, mais il s'agit de retrouver une place qui soit suffisamment forte pour que le potentiel forestier, le potentiel de la nature en forêt s'exprime pleinement et réponde aux enjeux et à tout ce service gratuit que la nature fournit à l'humain et qui permet vraiment d'envisager un futur plus serein.
Revenons au bail forestier, créé récemment par Forêt en Vie, avec l'aide de notaires sensibilisés aux questions environnementales. C'est la première fois qu'un tel bail existe en France. Emmanuel Rouff.
On a mis en place un bail, on a créé un bail forestier avec des notaires, avec des contraintes qui sont quand même assez sévères sur certains axes. Ça veut dire qu'une partie de la forêt doit rester en libre évolution, ce qui permet de l'observer, parce qu'elle a certainement beaucoup de choses à nous dire par rapport au changement climatique, par rapport à plein de choses. Et si on ne la laisse pas s'exprimer, on n'apprendra rien. Donc pas de coupe rase, pas de produits chimiques. Enfin, on a toute une liste comme ça de choses où on demande aux gens de respecter ça. Et c'est dans le bail, donc ça peut même être un outil contraignant qui pour aller devant les tribunaux si ça n'est pas respecté. L'idée c'est ça, c'est vraiment une idée de confiance aussi et de pérennité.
Alors je reviens au départ de notre discussion, puisque ça existe dans le monde agricole et pas forestier. En fait, c'est un ovni qui est parachuté dans un monde qui... Moi, j'avais vu des textes vaguement, des petits textes comme ça circuler, des gens qui l'avaient imaginé, mais jamais ça s'est fait dans le monde forestier. Et je pense pour une raison assez simple, enfin, peut-être deux raisons pour être un peu plus large. Il y a une raison un peu culturelle, sociologique, c'est que les propriétaires forestiers, en tout cas les gros, sont d'un certain niveau social, sont une catégorie un peu soit des aristocrates, soit des industriels, soit voilà, ou des bourgeois un peu, bon quand même, sans aucun jugement. Et du coup, d'imaginer mettre à bail, tant que l'État ne les forçait pas à mettre à bail à des bûcherons, non, on ne va pas se déposséder du droit d'exploiter directement la forêt, quoi. Il y avait ça, et je pense que derrière, il y avait aussi la crainte, parce qu'il faut bien comprendre, et ça c'est tout à fait légitime, Forêt en Vie est obligé de faire face à cette question, c'est qu'en forêt, le capital, au sens économique, il est debout, alors qu'en agriculture, il est couché, quoi. En agriculture, le capital, c'est la terre, et sa fertilité. Et la loi ne cadre pas la dégradation de la fertilité dans le bail agricole, ce qui est pas normal. Mais, ou en tout cas, pas assez, quoi. C'est relativement flou. En forêt, vous pouvez évidemment foutre en l'air la fertilité, mais vous pouvez aussi, si vous coupez tous les arbres, eh bien, la forêt, vous l'avez achetée 20 000 euros par hectare, vous coupez tous les arbres, elle vaut 1 000 euros, quoi. Du jour au lendemain, hein, parce qu'aujourd'hui, une abatteuse, elle fait un hectare par jour, donc c'est vite vu. Donc, ça veut dire quoi? Évidemment, c'est absolument pas, c'est des pratiques qui seront complètement interdites dans Forêt en Vie, ça pose même pas de question, mais ça veut dire que le bail, il a toujours fait peur aux propriétaires et aux gestionnaires, enfin tous ceux qui avaient un attachement à la forêt, de se dire, mais en fait, quelle est la garantie, si je donne un bail à quelqu'un qui va s'occuper de ma forêt, comment je peux garantir le fait qu'il va pas la bousiller, quoi. Et la seule façon, la seule expérimentation dans ce sens-là, qui existe depuis longtemps et qui existe encore aujourd'hui et qui est intéressante et sur laquelle on peut s'inspirer pour créer un bail, c'est la notion d'usufruit, le démembrement de la propriété. Le démembrement, c'est quelque chose qui existe pour les bâtiments, mais aussi pour la forêt, et où il y a un nu propriétaire, un propriétaire sans droit d'usage, et un usager, l'usufruitier, qui n'a pas de droit de propriété. Donc par définition, l'usufruitier, il a le droit d'exploiter la forêt au sens de récolter son accroissement, sa production annuelle. Mais il n'a pas le droit de décapitaliser la forêt. Il n'a pas le droit de redémarrer à zéro, de tout récolter, parce que sinon ses enfants n'ont plus rien. Et par contre, sur l'interprétation de la limite entre le droit du nu propriétaire et de l'usufruitier, il y a quand même un flou juridique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a pas pu transformer ce cadre du démembrement en bail forestier parce que, par exemple, sur la futaie régulière, qui est une forêt qui est exploitée par grandes plaques, hein, où on a des arbres jeunes, des arbres moyens, des arbres vieux, mais qui sont séparés dans l'espace, vous voyez, des grandes parcelles homogènes, eh bien, l'usufruitier a le droit de raser les parcelles mûres, soi-disant mûres économiquement, hein, au sens de ce que veut l'industrie, enfin, ce que veulent les scieurs, pour autant que l'usufruitier replante. Et pour autant que sur l'ensemble de la forêt, il y ait en permanence des vieux, des jeunes, des moyens. Vous voyez, donc tant qu'on est dans la rotation, et ça, pour moi, c'est le même travers que le bail agricole, c'est-à-dire que dans le bail agricole, si vous pratiquez une agriculture intensive, vous exportez des minéraux, vous foutez en l'air la fertilité, vous n'êtes pas pénalisé. Eh bien, si vous faites de la futaie régulière de Douglas sur Douglas sur Douglas ou d'épicéa sur épicéa pendant 10 générations, les sols vont quand même se dégrader violemment. On est toujours dans le cadre du respect de la nue propriété. Donc ça veut dire que même ce démembrement n'a pas été jusqu'au bout de la question de la durabilité. autant dans le champ agricole que dans le champ forestier, on n'a pas été au bout de la durabilité. Et là où le RAF va quand même plus loin, je pense que Terre de Liens a été plus loin avec les baux ruraux environnementaux sur l'agriculture, puisqu'il y a des clauses environnementales inscrites dans les baux qui font qu'on ne peut pas dégrader la fertilité. Mais là où le RAF va plus loin pour la question forestière, c'est qu'il sera inscrit dans le cahier des engagements réciproques, hein, qui va avec le bail, il sera inscrit qu'on ne peut pas, par exemple, faire de la futaie régulière de Douglas sur Douglas sur Douglas, on ne peut pas faire de coupe rase, etc. De manière à ne pas dégrader non seulement la fertilité, mais pas à dégrader la biodiversité, pour que la forêt continue à être vivante et qu'elle fonctionne comme un être vivant le plus longtemps possible, quoi.
Ce qui fait des baux assez complexes, hein.
Absolument. Ah oui, c'est pas juste un bail, on dit vas-y, serre-toi. Non, c'est très très compliqué, oui.
Mais comment fonctionne le marché du foncier forestier en France? Il s'avère que c'est une réalité très particulière, bien distincte du marché du foncier agricole. Une réalité dans laquelle Forêt en Vie va devoir apprendre à agir. Écoutons Gaëtan Dubus, qui est, je rappelle, expert et gestionnaire forestier dans l'Aude.
Alors, de nouveau, à la différence du monde agricole, la SAFER n'a pas de prérogative spéciale en forêt, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle ne peut pas préempter. Préempter, c'est donner la priorité à intervenir sur la transaction. Elle ne peut pas préempter sur les biens forestiers purs. Dès qu'il y a des terres agricoles, elle a le droit de préempter, hein, si c'est un bien mixte. Donc le corollaire de ça, c'est qu'il y a aussi moins de visibilité, puisque la SAFER a plein de défauts, on les connaît, mais elle peut créer une forme de visibilité, en tout cas territoriale, des transactions. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on peut avoir des forêts qui se vendent et dont l'information ne passe que dans un bureau parisien quelque part, et personne d'autre n'a l'information. Personne d'autre, puisque c'est comme un bâtiment, un appartement à Paris, vous tapez dans la main, hop, on va chez le notaire et c'est réglé. Et donc, si je suis propriétaire d'une forêt, je la vends et demain, ça peut être fait, hein, chez le notaire, en tout cas le compromis de vente. Si je veux acheter une forêt, l'implication de ça, la conséquence, c'est que si je ne suis pas dans les bons réseaux, si je n'ai pas les informations au bon moment, si je ne suis pas dans le bon bureau parisien au bon moment, et surtout avec les sous, là, dans ma poche, eh bien, je n'achète pas la forêt. Voilà. Et donc, aujourd'hui, qui achète les forêts? C'est surtout les personnes morales importantes qui ont les réseaux d'information, qui ont des réserves financières importantes et qui ne cherchent que ça parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, la forêt a la cote et que les marchés financiers sont instables. Et donc, voilà, c'est une bonne planque, entre guillemets. Il y a aussi des avantages à placer en forêt. Ça, c'est un régime très ancien. Hein, c'est qu'on a une réduction d'impôt sur la fortune immobilière, hein, l'ISF avant, qui est maintenant l'IFI. Donc, on a une réduction de trois quarts. Et puis, on a un abattement sur les frais de transmission, qui n'est pas seulement sur la propriété familiale, mais aussi sur les parts de groupements forestiers, aussi sur les structures d'investissement. Donc, c'est une petite niche fiscale quand même. Et puis, les revenus de la forêt sont défiscalisés, c'est-à-dire qu'ils sont forfaitaires. Donc, c'est pas au réel. C'est-à-dire que je vende ou pas du bois, si je vends pour 100 000 euros de bois ou pour zéro, j'ai le même impôt. Donc, évidemment, c'est intéressant. C'est-à-dire, et puis, c'est d'autant plus intéressant que la forêt est productive. Donc, ce que cherchent les investisseurs, aujourd'hui, c'est des forêts qui se vendent facilement. C'est-à-dire que le jour où on veut récupérer l'épargne, on vend la forêt, c'est réglé. Mais c'est aussi des forêts sur lesquelles il y a un revenu. Parce que comme ce revenu est défiscalisé, si vous voulez, ça améliore le bilan économique du placement.
Donc c'est vraiment pas évident si on est juste comme ça, un petit groupement de citoyens ou un individu qui voudrait acheter la forêt. Il faut pouvoir réagir très vite, il faut avoir l'information qu'une forêt est en vente. Enfin, c'est pas simple.
Vraiment, moi je crois personnellement, c'est ma conviction, hein, que la propriété peut être un rempart contre la destruction. Donc, pour moi, la question de la propriété publique ou privée, c'est pas un débat intéressant, en fait, pour moi. C'est dépassé, parce qu'il y a des risques de destruction autant dans le public que dans le privé, parce que je n'ai pas une confiance infinie en l'État, hein, surtout par les temps qui courent. Donc, pour moi, c'est dépassé. La question, c'est l'intention de propriété, l'intention avec laquelle on achète, et la transmission de cette intention. Et ça, aujourd'hui, on peut avoir des individus qui ont des très bonnes intentions, c'est plus difficile à transmettre, mais on peut avoir des collectifs qui ont des très bonnes intentions. Et là, je pense que la transmission est quand même plus simple. Donc moi, j'invite évidemment tous les collectifs à acheter ensemble des forêts. Et pour y arriver, il faut créer une structure juridique bien pensée, bien construite. Donc ça, c'est un peu la première étape, à mon avis. Un groupe humain qui sait fonctionner ensemble et puis une structure juridique qui représente ce que le groupe humain pense. Et ensuite, rassembler les fonds. Parce que ne pensez pas que le jour où vous aurez trouvé la forêt, vous aurez le temps de rassembler les fonds. C'est rare qu'on ait ce temps-là, très rare. Il faut avoir un propriétaire patient, un vendeur patient. Donc il faut être réactif à ce moment-là.
Le fonds de dotation Forêt en Vie pourrait aussi intéresser des propriétaires forestiers. Rappelons qu'il y a en France environ 3,5 millions de propriétaires, dont beaucoup vivent loin de leur forêt. Emmanuel Rouff.
Pour des propriétaires qui sont attachés à leur forêt, et en fait, qui aimeraient qu'il y ait quelque chose de vivant qui s'y passe, qui continue. C'est possible de léguer sa forêt à Forêt en Vie en ayant la garantie que cette forêt ne sera pas détruite, qu'elle continuera d'exister. Et puis même, ça peut être l'occasion de recréer des massifs, hein, à la limite, mais ça, c'est très, très ambitieux. Mais une forêt, elle est vraiment vivante quand elle existe sur une certaine superficie. Et à l'heure actuelle, moi, je vois, en me baladant, je m'aperçois que, bon, il y a des forêts domaniales en France, il y a des forêts, puis de grandes propriétés où c'est vraiment des massifs entiers. Mais il y a aussi cette réalité du zonage, du parcellaire, qui fait que ben un endroit on va avoir une petite plantation de Douglas et à côté ça va être en libre évolution puis après ça va être une petite plantation de cèdres. Et en fait, il n'y a pas vraiment une cohérence au niveau du vivant et puis ça a un impact aussi sur énormément de choses qu'on ne voit plus à l'heure actuelle, c'est que par exemple au niveau de l'eau on parle très peu du lien de la forêt et de l'eau, mais la forêt elle est vitale pour que l'eau puisse rentrer dans nos sols. Elle protège les sols et elle permet que cette eau puisse pénétrer et s'enfoncer dans le sol, se filtrer et rejaillir sous forme de source. Et cette notion-là, on l'oublie. On oublie ces cycles naturels qui existent. Et donc, certains propriétaires forestiers qui prennent conscience de ça, c'est un beau cadeau, en fait, aux générations futures, c'est de dire, voilà, ben moi, ma parcelle de forêt, j'ai envie qu'elle puisse contribuer à rétablir des écosystèmes beaucoup plus larges, beaucoup plus pérennes.
Ces dernières années, nous avons pu constater un engouement de plus en plus fort en France pour la forêt. Les mobilisations contre les coupes rases et les plantations monospécifiques s'étendent, comme la conscience que les enjeux cruciaux du climat et de la biodiversité sont étroitement liés au devenir des forêts. On pourrait donc imaginer que le lancement de Forêt en Vie arrive à un moment propice. Gaëtan Dubus.
C'est le moment venu dans le sens où les gens sont assez inquiets sur l'avenir des forêts. Bon, ce qui les inquiète d'abord, c'est le changement climatique. Enfin, depuis quelques années en tout cas, mais ce qui les inquiète aussi, et ça se réveille de plus en plus, c'est la façon dont on gère les forêts. Et est-ce que ça restera encore des milieux, des espaces beaux à voir, qui font du bien à regarder, dans lesquels on se sent bien, dans lesquels il y a de la faune, de la flore, il y a toute une vie. Voilà, ça inquiète beaucoup les gens. Je pense que, par contre, la question de soutenir des forestiers, des paysans forestiers qui vont vivre sur place, qui vont habiter la forêt, qui vont y travailler, qui vont faire leur métier de ça, en coupant des arbres, pas que, hein, ils feront plein d'autres choses, mais aussi en coupant des arbres, là, la société est un petit peu loin de ça. C'est-à-dire que donner de l'argent pour faire des réserves intégrales et pour protéger la nature, les gens sont prêts. Ça, j'ai pas de doute. Donner de l'argent pour développer une autre sylviculture, je pense que ça va venir, mais Forêt en Vie est un petit peu en avance, quoi. Vous voyez ?
C'est en grande question, grand travail de pédagogie, alors.
Oui, je pense que, en fait, il suffit pas de faire un site internet et de dire donnez-nous de l'argent, et puis crac, tout le monde va tomber dessus. Et on sera obligé d'expliquer, mais pourquoi on va gérer les forêts ? Et je dis bien pas pourquoi il faut gérer les forêts, parce que la filière communique comme ça en disant « il faut gérer les forêts, sinon elles vont mourir ». Non, ce n'est pas du tout la communication. C'est pourquoi ça a du sens d'aider des jeunes et des jeunes et des moins jeunes, des collectifs, des gens à créer une nouvelle culture de la relation humaine et économique entre société et forêt, de se trouver dans ce maillon entre la forêt en tant qu'être vivant et la société avec ses besoins. C'est ça qu'on veut quelque part montrer et développer aujourd'hui et susciter de l'intérêt et des fonds pour ça, qu'on soit clair. C'est nous, je dis nous, les forestiers soucieux de l'avenir de la vie en forêt, on est des passeurs, vous voyez, on est des porteurs d'histoire, on est des passeurs. On est des passeurs entre le monde de la sauvagerie, du sauvage, que tout le monde aime bien, et les besoins de la société. La société a besoin de la forêt pour se ressourcer, mais elle a aussi besoin de bois. Et de plus en plus, ça fait peur, elle a besoin de bois. Mais qui fait ce lien entre les deux? Qui fait ce lien? Des paysans forestiers qui ont une autre façon de gérer, de récolter du bois, ils peuvent montrer que ce lien, il ne détruit pas la nature, il ne détruit pas la forêt. On peut récolter du bois sans détruire, dans une forêt qui est vivante, quoi.
Donc en fait, c'est montrer qu'il y a un alternatif, ou disons une voie entre deux pôles, deux extrêmes qui sont de plus en plus visibles et palpables en France et même au niveau planétaire peut-être. C'est des forêts en protection totale, mises sous cloche, on pourrait dire, en évolution libre. Il y a beaucoup de soutien pour ça, c'est certainement très bon pour les climats, etc. Et c'est une très bonne idée, mais l'autre pôle, c'est l'industrialisation extrême, des coupes rases, des plantations à gogo en permanence, mais ce qui est entre, c'est moins visible, palpable actuellement.
Oui, tout à fait. Moi, autant je suis pour qu'on augmente les surfaces en libre évolution et qu'on leur donne un statut légal, moi je suis absolument pour. Autant, je pense que de rester effectivement dans cette option complètement binaire entre... comme disent certains, la forêt musée, la forêt loisir ou sauvage d'un côté, et puis la forêt productive, usine, voilà, dans laquelle on va travailler pour faire de l'argent et puis pour produire du bois, pour alimenter la grande distribution. En fait, c'est la même schizophrénie, quoi. C'est la même maladie. C'est exactement l'expression d'une seule maladie qui est de voir tout en noir et blanc. C'est désespérant comme vision. En fait, moi, je suis désespéré par cette absence de troisième voie, de voie du milieu. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est la voie du milieu, parce que c'est la seule qui est vraiment vivante, quoi. C'est la seule où il y a du goût, où il y a de la sensibilité, où il y a de la diversité aussi, où chacun expérimente à sa façon, où on va y voir que, ah, tiens, à cet endroit, sa voie du milieu à lui, c'est ça, puis à un autre endroit, sa voie du milieu, c'est à ça. Et c'est tout l'inverse de cette forme de planification qu'on essaye de nous vendre de manière très, très, très répétée, entre oui, oui, mais il n'y a pas de problème, l'industrie du bois lourde, elle va tout à fait cohabiter avec les réserves intégrales. Aujourd'hui, il faut faire très, très, très attention, parce qu'il y a vraiment un discours qui est en train de se construire, qui est très bien fait, en disant, mais si, vous savez... Les réserves intégrales, on va même les payer, on va donner des fonds importants pour ça, parce que c'est tout à fait compatible. Et c'est des forêts bien distinctes, ça s'appelle la sectorialisation de l'espace, hein, c'est connu dans d'autres pays. Des forêts loisirs pour promener le chien en bord de ville, des forêts libre évolution complètement abandonnées au fond de la montagne, là où de toute façon jamais un bûcheron ira. Et puis les plateaux qui produisent du bois en randonnion, où là, il y a les usines et les autoroutes à côté. Et ça, voilà, ça c'est du sérieux, quoi. Hein, le reste, c'est de la rigolade, mais ça, c'est du sérieux. C'est là qu'on fait de l'argent, c'est là qu'on fait de la matière, c'est là qu'on est compétitif, hein, le mot à la mode. Voilà, moi, je pense que ça produit que du désespoir.
En fait, il y a beaucoup de l'émotionnel dans l'histoire. C'est vrai que si tu vas chercher du bois dans la forêt pour faire ta charpente, et c'est la forêt qui est à côté, que tu connais, que tu as visité, avec laquelle tu es en lien, je pense que ta maison, elle va prendre une valeur qu'elle n'avait pas avant, en fait. Et puis en plus, si elle a été travaillée, enfin, si le bois a été travaillé par des gens du coin, enfin, s'il a été prélevé par des gens du coin, qu'il a été scié par des gens du coin et travaillé par des gens du coin, je pense que ça donne une autre valeur. Après, je ne veux pas dire qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne font pas du bon boulot. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais je pense que ce lien-là, il est super important de se rendre compte qu'on a besoin de cet environnement-là pour notre vie et qu'en plus, c'est tous ces savoir-faire, ça nous rend plus intelligents. La forêt, elle est là, elle nous rend beaucoup de services et il faut en être conscient, la respecter. Il faut y aller prudemment. On va aller prélever du bois, mais c'est aussi important, ça. Je veux dire, ça fait partie de notre monde, quoi.
En fait, Emmanuel, toi, en tant que membre du conseil d'administration du Forêt en Vie, puis un peu la petite équipe qui existe actuellement, quel appel tu ferais ?
Bah, il y en a de plusieurs ordres, mais déjà, pour moi, ce qui est important, c'est que les gens osent se lancer dans l'aventure. Parce que c'est vrai que c'est une aventure peu commune. Finalement, à l'heure actuelle, on est vraiment dans des cadres de propriété privée. Je me mêle pas de ce que fait le voisin, enfin des choses comme ça. Alors que là, on propose vraiment que ça soit des groupes de personnes qui se mettent ensemble pour réfléchir et pour se remettre en action. Donc déjà, on a déjà quelques petits groupes là qui sont en train de se former, qui commencent à réfléchir, qui commencent à se dire « Ah ouais, c'est possible, en fait, on va pouvoir faire ça ». Ça commence tout doucement, enfin ce qu'on appelle groupe de porteurs de projets, il commence à y en avoir quelques-uns, et qui commencent à visibiliser des forêts. Après, effectivement, on a besoin d'argent, et ça va être, c'est vital, parce que si on n'a pas d'argent pour pouvoir répondre à l'achat de forêts, et des fois c'est même dans des termes d'urgence, il y a des forêts qui vont se libérer sur des territoires, et s'il y a des gens qui ont envie d'empêcher qu'elles soient récupérées par un coupeur de bois, eh ben, il va falloir aller très vite. Au niveau financier. Donc ça, c'est vraiment un appel aux gens de participer à Forêt en Vie en donnant, même ça peut être 20 euros par mois. Quoi. En fait, 20 euros par mois, si on a des milliers de personnes qui font ce geste-là, on va pouvoir faire des choses. Quoi. Mais ça, on a vraiment ce besoin vital de mobiliser de l'argent. Et puis, on a besoin aussi de tout un réseau de sympathisants qui pourraient nous aider à faire connaître Forêt en Vie, pour collecter de l'argent encore une fois, le faire connaître aussi auprès des artisans, auprès de gens qui sont passionnés par le bois et qui pourraient d'un seul coup dire « Ah, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose », donc en termes de porteurs de projets, ou des gens qui auraient la capacité... qui connaissent bien la forêt, d'accompagner un groupe dans leur démarche. Enfin, ça peut être une multitude de choses. Des gens qui disent, qui nous appellent en disant « Ah, là, il y a une forêt qui est à vendre, il ne faut vraiment pas la laisser passer. Est-ce que vous connaissez des gens dans le coin qui pourraient se mobiliser ?» Voilà, des gens qui sont un peu en alerte. Enfin, tout le champ est possible. C'est vraiment une mobilisation massive autour de la forêt où chacun peut trouver sa place. Et c'est très, très créatif. Pour l'instant, ça peut permettre énormément de choses, donc il ne faut pas hésiter. On a un site internet où les gens peuvent aller voir tout ce qu'on fait. Il y a toutes les coordonnées de Forêt en Vie. Il y a à l'heure actuelle une salariée qui est là pour répondre, pour pouvoir se déplacer, aller voir. Tous les outils sont là maintenant pour se mettre en route.
Là, il faut que Forêt en Vie prenne son envol et que on a un certain nombre d'outils. Le bail forestier, cette fois, ça y est, on a les premières versions qu'il va falloir mettre en application sur les premiers projets. Donc, ça va être une phase importante. Et en parallèle, la phase de communication avec le grand public. Et là, il ne faut pas qu'on se rate. Et c'est vrai que ça occasionne des travaux et des débats nourris, importants. Et qu'évidemment, on cherche à avoir plus de monde pour mener tout ça. Et on a envie que d'autres personnes nous rejoignent aussi au début de cette belle aventure.
C'était Pour des forêts en vie, la 29e émission dans la série Entre cimes et racines, réalisée par Radio Zanzine en partenariat avec le réseau pour les alternatives forestières. Si vous voulez en savoir plus sur Forêt en Vie et pourquoi pas le soutenir financièrement, consultez son site internet qui est www.forêtenvie.org. D'autre part, vous trouverez toutes les émissions de la série Entre cimes et racines sur le site du RAF www.alternativeforestiere.org.